Tout au long de l'année, Cité Radio vous propose de l'info locale, de la musique, des bons plans, de la culture, etc. Mais au fait, si Cité Radio n'était pas là, qu'aurions-nous eu à la place ?
Vous êtes sur Fréquence Gueule, la radio qui détruit les enceintes ! Tout de suite, on va passer à l'agenda des sorties ! Jingle ! Et le jingle, on se dépêche ! Allez, j'ai pas que ça à faire !
Eh bien, heureusement qu'on ne vous diffusera jamais ça, puisque nous, c'est la positive info.
Le lundi à 22h et le vendredi à 22h, c'est DJ Academy. Durant 90 minutes, retrouvez votre magazine hebdomadaire musical sur les nouvelles tendances électroniques avec toute l'actualité du disque et des interviews d'artistes. DJ Academy, c'est à écouter les lundis et les vendredis à 22h sur Cité Radio, la positive info.
Question média. Vous êtes prêts ? Top, je suis une radio tourangelle de proximité qui diffuse sur le web, la FM et en DAB+. Mon site internet, on y trouve tout plein d'interviews sur la vie locale.
Citrouille Radio.
Non. Top, je participe à des événements chaque année comme les Assises du Journalisme, le Quartier des Fontaines, le Mois de l'Économie Sociale.
C'est la mer Noire ?
Mais non, on parle de radio. Top, je diffuse aussi de la musique, des bons plans et mon slogan, c'est la positive info. Je suis...
Ah oui, je sais, Cité Radio.
Oui, bravo ! C'est Cité Radio, la positive info. Très belle victoire.
Les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
Histoire d'eau. Un fleuve royal, la Loire, une rivière, le Cher, et tout plein de fontaines. Assurément, Tours est une ville d'eau. Un quartier même, celui qui héberge le studio de Cité Radio, s'appelle Quartier des Fontaines. Vous saurez pourquoi à la fin de cette chronique. Et oui, tous les moyens sont bons pour vous encourager à écouter jusqu'au bout. Je me propose donc de vous faire une petite tournée des fontaines, à défaut de tournée des Grands Ducs et des Grands Crus. Suivant les bords de Loire en venant de l'Est, je passe d'abord Quai d'Orléans, devant cette grande fontaine surmontée d'un Indien. Ce monument aux Américains a été offert à la ville pour la remercier de l'accueil fait au siège de l'US Army lors de la Première Guerre mondiale. Tours était à la fois un nœud ferroviaire important et un centre militaire. Au cours de l'année 1915, l'aviation française construisit un nouveau terrain d'aviation où les Américains installèrent 3 escadrilles. C'est aussi en hommage aux Américains que le pont de Pierre fut rebaptisé en juillet 1918 Pont Wilson. La fontaine, inaugurée en 1937, est surmontée d'un Indien tenant sur un avant-bras l'aigle des montagnes rocheuses. Il regarde vers l'ouest et son revêtement doré brille au soleil. Chaque face de la colonne reposant dans la vasque est à la mémoire des armements, des munitions, etc. L'Indien, avec son aigle, a presque autant de succès auprès des enfants que Fritz, l'éléphant du musée des Beaux-Arts. C'est dire. Je continue mon chemin et dépasse la bibliothèque municipale, cette vieille dame au chapeau vert. Sur le square, entre les massifs fleuris, trône une vaste fontaine. Au centre du bassin rond, sur une forme cubique, une coupe est pourvue en son centre d'une multitude de jets d'eau de différentes hauteurs qui forment ainsi une pyramide. Le trop-plein de la vasque tombant en cascade dans le bassin. Quand la circulation est calme, on peut se laisser bercer par son doux clapotis. Mais c'est pas souvent, hein. Un demi-tour et me voici place Foire-le-Roi. Place qui tire son nom du fait qu'elle était l'emplacement des foires franches établies par le roi Jean le Bon en 1536. Elle accueillait les marchands et les battleurs de la Loire. Elle servait aussi de lieu pour le supplice du pilori et l'exécution des condamnés. C'était une place très animée, désolée pour l'humour noir. Une première fontaine avait été construite en son centre en 1512 qui recevait son eau de Saint-Avertin. Démolie en 1784, seul le bassin avait été conservé. En 1835, une nouvelle fontaine est établie à l'extrémité sud de la place avec réemploi d'une partie du mur du bassin initial. Une fontaine très classique, bassin en pierre, vase de type Médicis, piédestal de pierre d'où l'eau sort par quatre têtes de lion de bronze. À quelques coups de pédale de là, je file au bout du boulevard Horteloup. Et me voilà place l'Oiseau d'Entraigues, une petite place triangulaire fleurie, ombragée d'une dizaine de platanes. En son centre, une fontaine de 1875. C'est une œuvre de la fonderie Jean-Jacques Ducel de Possé-sur-Cisse. C'est une superposition de bassins avec des jets d'eau qui retombent en cascade, de réceptacle en réceptacle et aussi des lions de bronze qui crachent l'eau directement dans le bassin de pierre du bas. Je reprends le mail vers la place de la gare où une fontaine moderne a été construite en 1994 en même temps que le centre de congrès Vinci. C'est un objet étrange. À la fois fontaine, dont les jets frappent une forme oblongue en verre, et puits de lumière pour le parking souterrain de la place. On dirait un gros insecte luisant sur le dos. Elle fait aussi penser à un grand diamant en raison de la taille du verre. D'autres l'appellent la baleine, allusion à sa forme et à sa grande taille. Elle a subi bien des avanies. Entre les boules de pétanque jetées sur sa voûte de verre, le bassin transformé en poubelle, les problèmes de dilatation créant des tensions sur le verre. Elle a échappé à la démolition et régulièrement est réparée quand le verre fissuré laisse l'eau couler dans le parking. Ensuite, c'est tout droit sous les arbres du boulevard Horteloup jusqu'à la place Jean Jaurès, où de deux grands bassins symétriques jaillissent des jets d'eau. Installées en 1856, en même temps que l'eau courante, elles rafraîchissent l'atmosphère et sont entourées de parterres fleuris. La symétrie de la place n'est toutefois pas respectée. Un immense et magnifique hôtel de ville orné de sculptures domine, tandis que le palais de justice, néoclassique et sobre, se fait relativement tout petit. Doit-on y voir les faces du pouvoir et l'austérité de la justice, ou conclure perfidement que le pouvoir est plus fort que la justice? Je vous laisse ces interrogations à méditer et poursuis mon chemin. Je remonte la rue nationale, puis tourne à droite vers le jardin de Beaune et la fontaine de Beaune-Semblançay, érigée au XVIe siècle. Époque où six fontaines furent construites en ville. Après quelques déménagements, elle est revenue près de son emplacement d'origine, non loin du dernier mur, vestige de l'hôtel du même nom. Pendant les bombardements de 1944, sa situation en place du Grand Marché lui a permis d'éviter le pire. Cet aïeul des fontaines a eu une existence mouvementée, jusqu'à une dernière vandalisation en 2012 qui l'a privé d'un mètre de sa hauteur. C'est pourtant un solide bassin en pierre de Volvic, avec une colonne de marbre en son centre. On l'a surnommée Fontaine des Amoureux. L'artiste Cécile Pitois avait ajouté deux coussins pour eux. Les coussins ont disparu et il a même été question il y a quelques années que la fontaine déménage place de Châteauneuf. Mais elle est restée dans ce petit square. Et maintenant, protégée par des grilles à sec, elle attend la restauration et la remise en eau. Classée à l'inventaire des monuments historiques, elle bénéficiera certainement un de ces jours de fonds publics. Mais quand ? Toutes ces fontaines sont dédiées au plaisir des yeux et des oreilles, mais leur eau, qui tourne en circuit fermé, n'est pas potable. Heureusement, il y a les modestes, les bornes fontaines, souvent peintes en vert camouflage, par discrétion. Elles sont 83 sur la commune de Tours, pour hydrater le passant, son chien, ou remplir sa gourde sur le chemin de la Loire à vélo. Avec les étés torrides et interminables qu'on se prépare, elles seront les bienvenues. Comme promis, retour au quartier des Fontaines. Mais pourquoi ce nom? Il y a bien un grand bassin décoratif, place de l'Amiral Kerville, mais il n'est pour rien dans cette appellation bien plus ancienne. Voici un bref historique en guise d'explication. Les sources du Limençon, situées sur le coteau de Saint-Avertin, émergeaient initialement dans le vallon, au lieu dit les Fontaines, notre quartier donc. Le mot fontaine, qui désigne ces eaux vives, dérive du latin fons, la source, charmant lieu chantant et refuge des nymphes. Ces sources ont été captées en souterrain à partir de 1507 pour assurer l'alimentation en eau de la ville de Tours. Et voilà, la boucle est bouclée. Et si vous en voulez encore, poussez donc jusqu'à Amboise pour y voir la fontaine de Max Ernst, au cracheur, au drôle, au génie.
C'était les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
plus que tout au monde. J'aime te l'entendre dire, et pour rien au monde, je ne laisserai un autre te dire que tu comptes plus que tout.
Les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Je viens de retrouver un poème de Prévert de 1951. Et à quelques petites choses près, il est tout à fait d'actualité. Alors je n'ai pas pu résister au plaisir de vous le lire. Étranges étrangers, kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays lointains, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumiants de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris et bouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvré, polac du marais du temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venaient dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous mourrez. Il est magistral ce texte de Prévert, magistral et hélas, rien n'a changé. Pour le mettre à jour, il faudrait son talent et aussi un petit regard sur l'actualité. Tous les pays frappés par une crise humanitaire, la Syrie, l'Afghanistan, la Libye, l'Érythrée, la Somalie, subissant la guerre comme l'Ukraine, ou d'autres dont les peuples sont victimes de misère ou d'atteinte aux droits de l'homme, les pays du Sahel, les pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, les pays du Maghreb, plus loin comme le Bangladesh ou le Pakistan, j'en passe, hélas, il y en a tant. Je fais donc un appel aux bonnes volontés et au talent pour écrire ce poème sous une forme actualisée. On peut le chanter, peut-être, le crier dans les rues, pourquoi pas, et faire entendre à tous ceux qui ne le savent pas et ont besoin de le savoir, que les hommes ont des droits, que les enfants ont des droits. D'ailleurs, la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça n'est pas rien, même si cette signature n'est pas contraignante en droit. Cependant, nous, citoyens occidentaux, avons des devoirs et il est bon d'y penser de temps en temps. Surtout en ces périodes de Noël, fête de la solidarité, non ? Fête du partage et non pas forcément grande foire à la consommation. À bon entendeur, salut !
C'était les chroniques irrégulières de Hélène Duvialard sur Cité Radio.
En ville, le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité.
Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve
dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût.
C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés
sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut. Quand du métro de son raffut les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Oh, que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise talus pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage.
Love was a word I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Sound four letters. Are you loving the pain? You're loving the pain, yeah. And with every day, with every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing.
Et voici le retour de la musique avec Julien Granel, plus fort. Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est à sillonner les années, et tant pis. Y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas.
Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra.
L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Les avis, j'encaisse. J'ai à additionner les échecs. Et tant pis si je perds sur la roue de mes rêves. Des amis qui durent et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir et ça ira.
L'espace est là.
Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, la positive info.
Écrever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, et tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde.
La positive info. C'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colombard. Retrouvez-moi dans Cité Culture, votre émission quotidienne. Musique, théâtre, littérature, l'essentiel de l'actualité culturelle locale et nationale est à découvrir chaque jour de la semaine sur Cité Radio.
Présenté par Guillaume Colomba, Cité Culture, c'est tous les jours à 11h sur Cité Radio. Et pour encore plus de culture à tout moment, rendez-vous sur notre site citéradio.fr. Avec Cité Radio, suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colomba. Si vous êtes fan des années 80, alors je vous donne rendez-vous dans Rétro Musique pour un voyage dans cette décennie. Vous retrouverez bien sûr le meilleur de la musique, mais aussi des chroniques comme le double titre et la perle rare. A bientôt.
Rétro Musique avec Guillaume Colomba, c'est tous les vendredis à 20h et le dimanche à 19h sur Cité Radio, la positive info.
Bonjour et bienvenue sur Cité Radio. Je suis aujourd'hui avec Olivier Renard, président de l'association Météo Centre. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer par vous présenter, expliquer un peu votre parcours ?
Alors du coup, bah, Olivier Renard, donc, du coup, moi je suis allé fonder alors, Météo Centre, même avant le côté associatif, en 2009. J'ai monté le site web tout seul avec mon petit clavier. Et puis en 2011, à la troisième version du site, comme tout ça marchait relativement bien, on a décidé de passer en association loi 1901. De formation, moi j'ai une formation en biologie générale et sciences de la Terre et de l'Univers à la faculté d'Orléans. Et puis maintenant, je suis professeur de sciences de la vie et de la Terre depuis 15 ans au lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux.
Et qu'est-ce que l'association Météo Centre ?
Alors du coup, à Météo Centre, ça regroupe en fait des passionnés de météorologie et de climatologie dans la région Centre, dans la région Centre-Val-de-Loire. Donc on est actuellement 170 adhérents, pour vous donner à peu près une idée. Et puis les trois grands axes de l'association, finalement, c'est à la fois de fournir des informations gratuites au grand public sur des phénomènes météo qui vont toucher notre région et notamment aussi l'Indre-et-Loire. Du coup, c'est dans un deuxième temps de créer un réseau de webcams météo, donc qui permettent une observation en direct, et puis aussi, bien entendu, on a même commencé par là, c'est de construire du coup un réseau de stations météo semi-professionnelles que l'on déploie nous ou que l'on aide des particuliers à déployer. Et donc à l'heure actuelle, on a à peu près 80 stations sur la région Centre et les départements limitrophes.
Donc vous expliquez, vous aviez 170 adhérents. Comment est-ce qu'on peut devenir adhérent ?
Alors bah, du coup, il suffit d'aller sur le site du coup météo-centre. Tout en haut à droite, il y a un petit onglet adhérer, et puis bah, ensuite du coup il suffit de se laisser guider. On a trois types d'adhésion. On a les adhésions à 17 euros par an. Alors c'est de date à date, hein. On adhère tel jour de mars, c'est jusqu'à tel jour de mars 2025. On n'est pas sur une adhésion annuelle comme la plupart des autres associations, puisqu'on considère que voilà, on a encore la capacité de suivre nos adhérents au jour le jour. Donc 17 euros voilà, pour une personne simple, 30 euros pour les couples et puis 50 euros pour les personnes morales.
Et quel est le rôle de ces adhérents ?
Pour certains, du coup, ça va leur permettre donc d'avoir des avantages, hein, par exemple de pouvoir avoir une webcam qui va être payée par l'association. Alors il y a quelques règles à respecter. Voilà, il faut que bien entendu, ça soit pas trop proche d'une webcam. Faut pas qu'on filme les voisins, parce que ce qui nous intéresse, c'est principalement le ciel, bien entendu. Ça va être d'avoir aussi un rôle à jouer. Et là, du coup, on fait notre assemblée générale en avril. Ben voilà, de pouvoir intervenir lors de nos assemblées générales, de prendre un part à la aux directions et aux objectifs que l'on va fixer, pouvoir donner son avis et puis voilà partager avec les autres passionnés au cours de ces journées, du coup des informations sur ce qui se passe chez soi, pouvoir discuter d'un phénomène marquant notamment par exemple.
Et est-ce que c'est le rôle de ces bénévoles aussi du coup d'informer sur la météo ou eux ils sont juste là à installer justement une webcam ou une station?
Alors ça peut, bien entendu, on a par exemple là, deux nouveaux adhérents qui sont arrivés dans l'association il y a une quinzaine de jours et qui peuvent mettre, s'ils le souhaitent, à disposition leurs compétences. Alors là, c'est des compétences numériques pour nous aider justement sur la gestion des bases de données et toutes les datas qu'on peut créer au jour le jour avec le réseau de stations. Mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut simplement adhérer pour soutenir et puis justement, du coup, intervenir. Voilà, il y a un orage de grêle, bah, envoyer une photo ou pas, c'est pas obligatoire, prévenir par les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, c'est pas un souci. Ou alors, bah, justement, du coup, décider au bout de une année ou deux, on peut avoir des gens qui pendant 5 ans nous ont soutenus, puis au bout de 5 ans, nous ont dit bah en fait, comme je trouve que ça marche bien et que dans l'ensemble je suis grand ce que vous faites, bah voilà, moi je suis prêt à suivre la presse, à me déplacer sur 5-10 km quand il se passe quelque chose. Puis nous, du coup, on fait un petit résumé de tout ça, et puis bah quand on a besoin, les contacts, et après de toute façon, il n'y a jamais rien d'obligatoire, bien entendu.
Donc différents degrés d'adhésion possibles.
Exactement.
Et comment est-ce que vous financez tout le matériel ?
On a principalement du coup les adhésions, très clairement, hein, c'est quand même plus de, je crois que l'année dernière, c'est plus de 80% hein, de nos revenus. Après, on a un petit peu de publicité sur le site, donc, mais bon, pour rester dans les lois de 1901, on est obligé de limiter. Et après, là, du coup, depuis cette année, la région Centre-Val de Loire nous a donné un petit peu d'argent justement pour nous aider pour tout ce qui est communication principalement. Donc ce qui fait que voilà, on peut déployer plus facilement des webcams finalement, parce que c'est quelques centaines d'euros. Donc on déploie plusieurs webcams par an. Là, on a notamment un projet par exemple à La Chapelle-sur-Loire, hein, dans l'Indre-et-Loire. Puis on essaye de financer de temps en temps des stations météo, mais c'est plus cher. Hein. Une station météo, c'est minimum en gros 1 000 euros et ça peut aller jusqu'à 2 000. Donc on essaye de fixer des objectifs à 3 années. En permanence pour forcer, voilà, une année 1, on fait plutôt de la webcam, une année 2, on fera plutôt une ou deux stations et très peu de webcam, une année 3, on fait sur les webcams pour continuer à déployer notre réseau.
Et pourquoi avoir créé cette association ?
Il n'y avait personne sur la région, et même si, en effet, il y a moins de phénomènes météorologiques que sur des zones de montagne ou sur des zones côtières. Hein. Là, moi, j'ai participé cette année aux rencontres nationales de passionnés. Je me suis un petit peu fait charrier parce que oui, mais tu te rends compte, t'as fait une asso, il se passe jamais rien. Alors ça, c'est de la taquinerie gentille, hein. Il se passe bien entendu des choses. Mais c'est vrai que c'est moins riche, mais j'ai estimé à cette époque que voilà, je vois pas pourquoi, même si c'était un petit peu moins riche, il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas une association de proximité pour regrouper ses adhérents et puis faire du travail sur le terrain et développer un réseau d'observation dans une région qui est quand même assez hétérogène. Et finalement, d'année en année, en densifiant les réseaux, on se rend compte que, bah oui, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, il y a des fois, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer.
Et pourquoi c'est important pour vous de créer finalement ce réseau ?
Bah, parce que j'étais engagé en fait au niveau national jusque dans les années 2002-2003, et puis j'avais envie de faire plus de proximité, parce que c'est vrai que bon, bah, quand on écrit un article sur un épisode Cévenol, bon bah c'est bien, hein, c'est intéressant, c'est de la météo, mais faire de la météo avec des gens à proximité, c'est plus intéressant. Maintenant, le conseil d'administration, c'est vraiment une bande d'amis, et on aime travailler ensemble, ça se passe bien, il y a de bonnes relations, donc c'est assez intéressant. Et puis ça permet aussi, moi, d'un point de vue personnel, de toucher à d'autres choses qui peuvent être en lien avec mon métier. Voilà, en tant que professeur de terminale, j'ai travaillé sur météo et climat, donc ça m'apporte une vision différente des autres professeurs. Et puis là, on a eu la chance d'avoir un siège au Conseil supérieur de la météo, donc maintenant j'y siège régulièrement dans certaines commissions, et c'est vrai que c'est intéressant pour un développement personnel, bien entendu, d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue professionnel. C'est très intéressant d'être un petit peu à la page de tout ce qui va se faire au niveau national et au niveau régional.
Et qu'est-ce que c'est le Conseil supérieur de météo ?
Alors, le Conseil supérieur de la météo, c'est en gros 400 personnes sont réparties dans différentes commissions qui font le lien entre l'État, Météo France, des passionnés de météorologie, puis tous les instituts, CNRS, notamment par exemple RGM, INRAE. Et voilà, en fonction des commissions, on va débattre de différents sujets pour voir ce qui va être mis en place au niveau de Météo France, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. C'est juste, en fait, voilà, c'est pas un organe décisionnel, mais c'est plutôt un organe délibératif où on va beaucoup discuter. Alors bon, bah, des fois, on n'est pas content de ce qui va en sortir ou pas, mais dans l'ensemble, pour les premières commissions que j'ai pu mettre en place, ça se passe dans de bonnes conditions. Il faut que l'écoute est quand même assez intéressante.
Quels sont vos besoins aujourd'hui avec l'association Météo Centre ?
Toujours plus d'adhérents, toujours plus de passionnés, forcément. Hein. Regrouper vraiment, voilà, toutes les personnes qui sont intéressées par ça. Et puis bah, après, des bénévoles, hein, bien entendu, éventuellement, hein, pour rentrer, pour renforcer l'équipe en termes de prévision, la gestion des réseaux sociaux, parce que on a une communauté qui approche des 70 000 et ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir gérer toutes ces personnes. Ils sont parfois particulière sur leur point de vue, donc c'est vrai qu'on a eu un épisode de climato-sceptiques qui ont essayé de détruire un peu notre communauté cet été, donc ça a demandé beaucoup, beaucoup de vigilance sur les réseaux. Et puis après, bah forcément, des personnes qui sont potentiellement, voilà, en capacité, comme je disais, de traiter des datas ou de donner un petit peu de leur temps pour faire des enquêtes de terrain quand il se passe un orage de grêle sur une zone. Bah, nous, c'est vrai que on a bien entendu des adhérents sur la Touraine, hein, c'est pas le souci, mais bah, ils sont pas forcément toujours disponibles. Donc plus on a de personnes, plus on a potentiellement, entre guillemets, un vivier de personnes qui peuvent se déplacer, bah, plus on a de chances d'avoir une personne ou plusieurs personnes qui peuvent se déplacer, faire une étude et puis du coup faire remonter et pouvoir créer des articles en disant voilà, on a eu un orage, il s'est passé ça, on a des photos, malheureusement il y a des dégâts, il n'y a pas de dégâts, etc. etc.
Et je suis quand même assez curieuse de savoir qu'est-ce qui vous passionne dans la météo.
Alors je pense que je suis tombé dedans assez petit. assez petit quand voilà, je me rappelle, hein, déjà j'étais en primaire, petite classe, hein, CP, CE1, à regarder déjà les orages par la fenêtre, regarder la foudre tomber, écouter le tonnerre tomber. Et puis après, je pense que comme beaucoup en France, en fait, je fais partie de la génération des tempêtes Lothar et Martin de 1999, où voilà, il y a vraiment eu un choc en disant voilà, même si on est un pays où on était, alors on était peut-être un petit peu moins, mais on était un peu protégé de tout ça, même si ça avait déjà existé, bien entendu. Bah, il y a eu un choc, il y a eu un déclic chez beaucoup de gens en fait avec ces tempêtes, et on a commencé à s'intéresser à la météo. Le système de vigilance de Météo France a été mis en place, et puis petit à petit, voilà, on s'est mis à ça. Puis bah, moi, je suis chasseur d'orage aussi, hein, on est beaucoup de chasseurs d'orage dans l'association aussi. Donc on a, voilà, on a vraiment une passion à la fois pour les gelées, alors même s'il y en a de moins en moins, pour les épisodes de forte chaleur, malheureusement il y en a de plus en plus. Voilà, c'est un domaine qui est très divers, on s'ennuie jamais parce que c'est jamais la même chose. Bon, même si des fois, je dois avouer que après 13 ans de bons et loyaux services, il y a des fois où j'aurais bien pouvoir me prendre une semaine au calme. Voilà, c'est cet attrait, c'est aussi la relation avec la nature qui finalement décide vraiment de ce qu'elle veut faire. On est là, on n'est pas là. Elle a décidé de faire passer un orage ici ou des pluies pendant 3 jours abondantes sur telle zone. Bah, malheureusement, il va y avoir des conséquences, mais c'est elle qui a décidé, c'est pas nous.
Vous parliez de ces épisodes de chaleur, et donc effectivement, depuis le début de 2024, on a enchaîné des températures plutôt douces, puis ensuite on nous apprend qu'il est tombé donc entre le 21 et le 26 février l'équivalent du double de pluie de la moyenne mensuelle en Indre-et-Loire. Est-ce que vous avez des explications pour ces phénomènes ?
Alors en fait, c'est vrai qu'on a énormément de douceur. Alors on a eu un début janvier hein, qui a été plutôt dans les normes en fait d'un vrai hiver. Hein. Tout le monde a dit il fait froid, il fait super froid, mais en fait on était voilà dans les normales, donc ça c'était plutôt pas mal. Ça a permis au moins d'arrêter un peu la végétation temporairement, et puis après on est reparti sur du doux, hein, voire du même du très doux. On a quand même eu jusqu'à 19,7 à Tours le 15 février, hein, donc c'est quand même des températures qui sont hyper importantes. Le mois de janvier avait été à peu près dans les normales hein, de saison. Par contre, c'est vrai que le mois de février, très très doux, on n'a quasiment pas eu de gelée. Hein. Je crois qu'on a eu une gelée, ce qui a sauvé, entre guillemets, le mois de février, le 28, hein, même pas moins 20. Ce qui fait que s'il n'y avait pas eu cette gelée-là, je crois qu'il n'y aurait pas eu de gelée du tout du mois de février à Tours, ce qui aurait été inédit. Alors, ça a été le cas, par exemple, à Bourges. Hein, ça fait 42 jours au cours de l'hiver sans gelée. C'est juste inédit depuis la création de la station de Bourges en 1945. Et là, en effet, on a eu ce gros épisode hein, de précipitation qui s'est vraiment mis en place à partir du 21, avec 21 mm, 11 mm, puis après ça continue, 3, encore 18, etc. C'est vrai qu'on a eu une récurrence, on a eu en fait une rivière atmosphérique qui s'est mise en place. Hein, donc on avait de l'air qui arrivait en fait des Antilles, hein, de l'air assez doux, forcément, on l'a remarqué, mais en plus qui est chargé d'humidité. Et donc du coup, en arrivant chez nous, bah, il s'est déchargé une grande partie de cette humidité, et bah, ça a eu lieu pendant plusieurs jours de suite, hein, du coup, toute la fin février, et on a eu du coup des cumuls de pluie, en effet, qui ont été hyper importants.
Et est-ce qu'on peut dire que tout ça, c'est lié au réchauffement climatique, ou c'est plus des phénomènes météorologiques particuliers
Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau. Donc forcément, plus il fera chaud, plus l'air pourra se remplir d'eau. Et puis bah, forcément, plus il pourra pleuvoir potentiellement. Après, c'est un jeu de placement entre des anticyclones et des dépressions. Et ça, le réchauffement climatique, entre guillemets, il est en rien là-dedans. C'est juste un phénomène qui s'est mis en place temporairement à ce moment-là sur notre région. Alors c'est vrai que par exemple, si on prend les Hauts-de-France, hein, tout ce qui est Pas-de-Calais, eux, ça fait 4 ou 5 fois que ce genre de phénomène se met en place. Alors, on sait hein, potentiellement qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir une répartition des précipitations qui sera très différente, enfin potentiellement très différente de ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire des étés relativement secs et des hivers plus humides. Donc, dans cette optique-là, on est peut-être dans ça, avec justement du mois de février pour cette année qui sont un mois de février qui est très humide dans ce moment-là. Mais on peut pas dire c'est à cause du réchauffement climatique qu'on a eu ce phénomène. On a eu ce phénomène parce qu'il fait plus chaud, il a été exacerbé parce qu'il fait plus doux que d'habitude pour ce mois de février, donc on a eu plus de précipitations. Mais voilà, on peut pas, tout n'est pas lié à ça. Il y a une partie vraiment placement atmosphérique des centres dépressionnaires et anticycloniques et en effet le réchauffement climatique avec de l'air plus doux que la normale.
Et donc on a l'impression quand même que depuis 2022, presque chaque mois est le mois le plus chaud jamais enregistré. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui risque de se poursuivre en 2024 ?
Alors, c'est vrai que quand on regarde les mois sur Tours, pour retrouver un mois qui est inférieur au normal de saison, il faut remonter à janvier 2022. C'est-à-dire que depuis janvier 2022, tous les mois ont été, alors des fois très légèrement, hein, des fois c'est plus 0,5 degrés, hein, mais sur une température moyenne mensuelle, c'est quand même remarquable. C'est impressionnant cette série d'anomalies chaudes. En France, je crois que l'année dernière, c'est plus de 1000 records de température maximale battue pour peut-être à peine une centaine de records de France. Je crois que c'est même moins que ça, mais j'ai plus fait exact en tête. Alors, c'est pas pour ça que cette année, ça va être exactement pareil. Ce que l'on sait, ce qui commence à se dessiner, c'est que le phénomène El Niño qui a lieu dans le Pacifique et qui a tendance à réchauffer l'ensemble de notre planète par son action, logiquement, est vu avec une forte baisse à partir de la fin de l'été. Donc peut-être qu'à partir de cette période-là, on aura des anomalies qui seront moins marquées, ou alors on va réussir à passer un peu dans le négatif. Mais c'est pas parce qu'un mois ou une succession, même si là c'est plus que notable, hein, c'est quand même assez exceptionnel, même si on a cette succession assez exceptionnelle qui s'est mise en place dans le temps, c'est pas pour ça qu'au mois de mars, on n'aura pas du coup plutôt froid. On peut difficilement se baser là-dessus. Après, on peut voir à nous sur le... C'est vrai que sur les tendances saisonnières là qu'on a prolongé jusqu'au mois de juin, bon pour le moment on voit pas de mois normalement froid. Des mois plus humides, oui. À partir de mai peut-être un peu plus de sécheresse, mais on voit pas d'anomalies froides pour le moment.
Et quel est l'impact de ces anomalies météorologiques en Centre-Val de Loire ?
On a des renforcements des sécheresses, donc le renforcement des sécheresses forcément l'été. Mais certaines essences d'arbres du coup sont quand même moins dans leurs conditions optimales pour vivre, donc même certaines dépérissent. Donc si on a des arbres qui sont fragilisés ou morts, on a un risque d'incendie, à fortiori lié à la sécheresse, qui est plus important. On a des débits d'eau des rivières qui sont en baisse, du coup les nappes phréatiques forcément sont à des niveaux anormalement bas. Ça permet la progression de certaines espèces, je pense aux moustiques tigres, notamment dans certaines agglomérations ou métropoles, qui va très très vite parce qu'il n'y a pas assez de froid l'hiver pour tuer les larves, etc., hein, par exemple. Et puis, on a aussi forcément une végétation, hors les espèces véritablement qui sont en train de dépérir parce que les conditions climatiques ne sont plus adaptées à leur survie. Là, on a les phénomènes qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire des faux printemps sur un mois de février, et puis toute la végétation démarre. On a déjà des fleurs, on a déjà des arbres qui sont bien trop avancés pour la saison. Et si au mois de mars ou au mois d'avril ou au mois de mai, on a des gelées, alors qui finalement sont pas si tardives de ça. Elles sont tardives parce que la végétation a beaucoup d'avance. Mais temporellement parlant, elles ne sont pas du tout en retard. Faut pas oublier que, par exemple, à Tours, logiquement, il devrait geler encore au moins presque 4 jours au mois de mars, encore une journée minimum, normalement, d'après les normales de saison, au mois d'avril. Donc, on a ce décalage qui se met en place, finalement, entre la végétation, temporellement avancé dans le temps, en fait. On a l'impression vraiment que la végétation, là, elle a démarré mi-février, alors que logiquement, on peut encore avoir des périodes fraîches, voire froides, jusqu'en avril, alors, des fois même un peu plus tard sur le reste de la région. Et puis, une des dernières conséquences, l'été qui est à la fois en avance, c'est-à-dire qu'on peut avoir des températures maintenant très élevées. Hein, si je prends l'année 2023, c'est vrai qu'on a eu le premier 30 degrés, plus de 30 degrés, on a eu le 25 juin, et on a eu jusqu'à plus de 30 degrés jusqu'au 2 octobre. Donc on a vraiment un mois, vraiment presque 5 mois d'été, ou 5 mois tout du moins, avec des températures potentiellement supérieures à 30 degrés. Donc forcément, pour les organismes, c'est pas bon. Même pour donner une idée, hein, c'est vrai que 2023 était très particulier. Les deux mois les plus chauds en 2023 l'été, c'est juin, avec une température moyenne d'environ 21,6. Après, c'est septembre, avec 21. Juillet avec 20,7 et août avec 20,6. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des mois, logiquement, de fin de printemps et début d'automne, juin et septembre, qui sont plus chauds que des mois d'été. Et donc là, c'est pareil, du coup, ça nous fait une période vraiment anormalement chaude. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent aussi, hein, cette répétition des températures vers 30 degrés, où on en a beaucoup trop. Hein. Si on prend 2022, c'est pareil, on avait eu les premiers 30 degrés en 15 mai, c'était quand même remarquable. Et après, on a eu plus de 39 degrés en juin, en juillet, plus de 37 degrés en août, plus de 32 degrés encore en septembre. Donc, voilà, on voit vraiment des étés qui ont tendance à s'allonger dans le temps à partir de, pour le moment encore juin, mais ça pourrait être mai, hein, et qui peuvent aller beaucoup plus loin jusqu'à septembre.
Est-ce qu'à l'échelle individuelle, il y a des mesures préventives qu'on peut prendre face à ces anomalies météorologiques ?
Alors, vis-à-vis de la température, des hautes températures, de toute façon, on revient toujours sur l'isolation des maisons, dans la mesure des moyens de chacun. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément une période qui est économiquement simple. Alors, même pour nous, on le voit au niveau des adhésions, on a plus de turnover au niveau des adhésions depuis un an ou deux, parce qu'on sent que même certains adhérents ont dit « écoutez, je peux pas adhérer maintenant parce que j'ai pas 17 euros à placer ». Je dis « bon, c'est pas grave, c'est comme ça ». Des fois, quand c'est vraiment des situations qu'on connaît, on peut laisser un petit peu de temps aux gens pour nous faire parvenir leur cotisation ou encaisser les chèques le mois d'après. Enfin, on se débrouille, hein, on reste humain, hein, on n'est pas une entreprise. C'est essayer, mais alors c'est pas forcément simple à mettre en place rapidement, hein, mais créer de l'ombre sur sa maison en respectant les voisins, etc. Si on plante des arbres, bien entendu. Il y a malheureusement pas grand chose à faire, hein, quand la nature a décidé de vous mettre 39 degrés pendant 3 jours. De toute manière, à un moment ou à un autre, la chaleur finira par rentrer. Et à contrario, hein, si on a des températures qui redescendent vers moins 5, moins 10, forcément, il faudra chauffer, on n'a pas le choix.
Sur une note un peu plus positive, vous avez annoncé fin février que vous allez fournir des données climatologiques pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors du coup, on a été contacté par un des responsables des tirs sportifs sur Châteauroux et qui avait besoin de données justement de température maximale et sur les rafales de vent, parce que c'est du tir qui se fait forcément en salle, mais pas que, mais aussi du tir à l'extérieur. Et donc du coup, on a eu la chance de pouvoir aller chercher des données climatologiques avec notamment le modèle ERA5 qui vient de Copernicus, qui sont des données qui sont libres d'accès. Et donc du coup, on a fait nos petits calculs parce j'ai la chance d'avoir dans mon équipe, hein, en tant qu'administrateur, un climatologue de formation. Et donc du coup, on a pu fournir ces données qui vont permettre du coup de mieux appréhender les risques qui pourraient y avoir justement sur cette période de JO, avec en effet, hein, des températures qui peuvent monter à plus de 35. Et puis sur les périodes estivales, c'est un petit peu moins marqué, mais on peut avoir quand même du moment où le vent est supérieur à 70 km/h, c'est complexe de maintenir des épreuves de tir, puisque forcément ça va quand même dévier les balles. Tout ça a été pris en compte, et donc on était content de pouvoir amener notre petite pierre à l'édifice à ces jeux qui sont organisés au niveau régional et national.
Est-ce que vous avez d'autres projets futurs en préparation avec Météo Centre ?
Alors du coup, on a plein de projets qui sont en train de se mettre en place, peut-être même un peu trop pour une équipe de bénévoles. Je parlais tout à l'heure, on a d'une webcam sur la chapelle sur Loire, on va faire notre assemblée générale du coup sur l'agglomération de Châteauroux en avril. On a d'autres projets de webcam et de station, notamment en Brenne, un petit peu au nord-est du Blanc. On voudrait essayer aussi d'implanter des stations météo et des webcams sur l'ouest Touraine, parce que c'est une zone malheureusement qui pour le moment on a du mal à s'implanter. Donc ça serait pas forcément pour 2024, mais sur 2025, on fait appel aux personnes qui seraient potentiellement intéressées pour qu'on puisse développer notre réseau dans cette zone, parce qu'on a du mal à aller travailler par là. Alors, on a eu la chance l'année dernière de faire un partenariat avec le Château d'Amboise et de les aider dans leur transition écologique avec l'implantation d'une station météo pour qu'ils puissent réguler un peu plus leurs arrosages et puis avoir une meilleure connaissance de l'humidité du sol. Mais voilà, donc après, oui, c'est des projets, mais sur le Loir-et-Cher, on devrait implanter une station météo à Blois. Sur Sancerre, on devrait avoir une webcam qui va se mettre en place aussi. On a d'autres projets sur l'Eure-et-Loir. Voilà, on a quand même une petite dizaine de projets qui sont en train de se dessiner. Alors, parfois avec des particuliers, parfois avec des métropoles, ou des communes. Donc, ce qui prend toujours plus de temps, ça fait un petit peu plus administratif, mais dans l'ensemble, ça se passe relativement bien.
Et pour conclure, est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs, un message que vous souhaitez faire passer ?
Il faut vivre avec son temps, et c'est vrai que à l'heure actuelle, on est toujours dans ce contexte de réchauffement climatique, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais il faut bien penser à faire la différence et à s'informer sur les bonnes sources, croiser les informations, parce qu'on a malheureusement une toute petite communauté de gens, en fait. Alors, il y a un effet zoom, hein, c'est-à-dire qu'on les met beaucoup en avant, les climato-sceptiques, mais ils arrivent à faire quand même beaucoup de mal et à désinformer une partie de la population. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions sur nos réseaux. Alors, pas forcément que sur Météo-Centre, hein. Vous pouvez aller sur d'autres associations, je pense à Info-Climat, l'Association Nationale, ou sur d'autres sites, hein, qui, institutionnels, la Météo-France, etc., bien entendu. Mais, il faut pas s'enfermer, voilà, dans des croyances. Alors, beaucoup de gens disent oui, mais vous n'êtes pas encore sûr à 100%. Par exemple, est-ce qu'il y aura plus d'orages avec le réchauffement climatique? Donc, on a beau expliquer qu'on a encore des limites informatiques, des limites de coûts aussi, hein, tout simplement. Faut pas tomber, entre guillemets, dans l'obscurantisme et essayer d'aller de l'avant. C'est important. Si on tombe tous dans l'obscurantisme, on va pas avancer. Et je pense qu'on n'arrivera pas à régler un problème qui est déjà particulièrement épineux.
Donc, on peut vous retrouver sur votre site internet météo-centre.fr, les réseaux sociaux. Exactement. Également, Facebook, Instagram. Est-ce que vous avez un mail ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter?
Non, numéro de téléphone, non, c'est mon personnel, donc je ne le donne pas. On préfère pas mettre d'argent dans un forfait. Mais voilà, c'est pareil sur le site, hein, y a un formulaire de contact, donc on essaie d'être le plus réactif possible. Pour répondre, c'est souvent de l'ordre de 48 heures ou 72 heures, donc on sera à plaisir de répondre aux questions.
Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir suivi et merci à Olivier Renard de nous avoir répondu. Excellente journée à tous sur Cité Radio.
À Saint-Pierre-des-Corps, branchez-vous sur le 89.3 pour écouter Cité Radio, la positive info.
Retour en musique sur Cité Radio, nous écoutons Je cours, interprété par le groupe Kyo et Nuit Incolore.
Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. J'ai pas trop d'amis, regardez en classe, pas d'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire, c'est pas le pire quand la pause arrive. Je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse. Ou alors, accuser les coups dehors. Il faudra que je cours. Sortir, je dois tenir et construire mon futur. Partir à la conquête, une fille moins dure. Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Il faudra que je cours. Pour ne pas qu'on m'efface. Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3.